Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Et avec son équipe est sauvage, Mathieu Noël nous embarque pour deux heures de bonne humeur, pour s'informer, se cultiver tout en se divertissant, en compagnie de sa bande de chroniqueurs, Eva Rock, Olivier Pouls, et les journalistes aussi de la rédaction d'Europe 1. L'objectif pour nos journalistes, s'affronter à coups de chronique et remporter la compétition. Il faut savoir que toute la semaine, du lundi au vendredi, entre 16h et 18h, eh bien, vous votez pour celui qui vous a le plus étonné, et l'invité aussi, parce qu'il y a des invités, ils jouent un peu les arbitres, et votent, leur vote compte pour triple. Allez, on va dire ça comme ça. Pour commencer, eh bien, on va retrouver Mathieu Noël entouré d'Anissé Mbida, Jean-Philippe Ballas, Mathieu Charrier et Anne Le Gall venue nous parler d'un curieux métier.
Anne, qui ne vous y trompez pas messieurs, sous ses airs de Sainte-Nitouche, sait mettre l'ambiance quand il le faut. Pas vrai Anne?
Chaud cacao, chaud chocolat.
CQFD. Anne qui nous parlera d'un métier du futur qui ressemble à une blague mais qui n'en est pas une. Gardien de sable. Qu'est-ce que c'est que votre histoire de gardien de sable?
Alors d'abord, je suis venue avec ce seau, ce magnifique seau en plastique bleu. Je suis venue avec un petit
Jean-Philippe Ballas.
Point règlement, on a droit aux accessoires pour les chroniques?
Je n'ai pas encore décidé Jean-Philippe. Je statuerai à la fin de cette émission.
C'est un scandale.
Alors tout ceci c'est juste pour mieux vous émouvoir parce que j'espère que dans 30 ou 50 ans, ce seau de plage servira encore à nos petits-enfants qu'il faut aussi des châteaux de sable comme nous, ce qui n'est pas sûr.
Mais pourquoi ça n'est pas sûr? Il n'y aura plus de sable?
Ben, figurez-vous déjà que ce week-end en Sardaigne, il y a une brigade de gardiens de sable qui a dû être créée. Alors vous imaginez une dizaine de surveillants en t-shirt qui surveillent les
touristes. On sent que vous les imaginez,
touristes.
T-shirts moulants et musclés.
Je suis allée dans la presse locale,
vous allez trop loin dans la fiction.
Les voir en photo. Et donc les autorités locales en ont ras-le-bol. Les vols de sable se multiplient en Sardaigne. Il y a eu 200 kilos saisis à l'aéroport il n'y a pas longtemps. C'était mi-août. C'est un couple de Français qui a été arrêté à la douane. Parce qu'ils avaient embarqué 40 kilos de sable dans leur voiture. Ils voulaient mettre la voiture dans le ferry direction
Mais
Toulon.
La question simple est pourquoi faire?
Pourquoi faire?
Pourquoi
alors,
prendre du
pour
sable?
Pour les touristes, eux disent que c'est un souvenir de vacances.
Souvenir,
40 kilos,
c'est
en
du
réalité,
gros souvenir. Hein. C'était
réalité,
pas du chute plutôt, Anne, vous avez bien enquêté.
C'était du beau sable blanc de Sardaigne. Il y a un trafic sur eBay, il y a du sable qui se vend. Mais la réalité, c'est que si les trois quarts des plages du monde se réduisent, rétrécissent, en réalité, il y a un autre problème. C'est que le sable est devenu la deuxième ressource la plus rare après l'eau. Voilà.
Bah on va dans le Sahara, on a du sable.
Ah, il y a plein de sable, sauf que ce n'est pas celui-là qu'on utilise. On utilise du sable pourquoi? On l'utilise à cause de l'industrie. Effectivement, ce ne sont pas les touristes en fait, qui consomment trop de sable, c'est l'industrie. L'industrie du bâtiment d'abord, puisqu'il faut du sable pour fabriquer du béton. Pour chaque kilomètre d'autoroute, il faut 30 000 tonnes de sable. Pour construire une maison, eh bien, il faut 200 tonnes de sable. Et du sable, on en a aussi dans le verre, dans l'informatique, même dans les lessives ou dans les pneus. Ce qui fait que nous, habitants de la Terre, on consomme 18 kilos de sable par jour.
Vous imaginez, je sens, Jean-Philippe Ballas, que vous êtes séduit par le sujet de votre concurrence, ce qui est gênant.
La Chine, en pleine expansion, consomme aujourd'hui trois fois plus de sable que tous les pays développés il y a 5 ans. Tout ça parce qu'ils construisent. Donc effectivement, ce sable qu'on exploite provient alors, des rivières, des carrières, des plages aussi, c'est du sable marin. Et pourquoi on n'utilise pas le sable du désert? Vous l'avez évoqué.
Bah, je l'ai dit, c'est le bon sens. Hein.
Et c'est le bon sens, sauf que le sable du désert, il est poli par le vent, il est fin et donc il ne s'agrège pas. C'est pour l'instant un sable qu'on a du mal à utiliser dans le bâtiment, mais ça change. Et c'est là où je veux quand même mettre un petit peu d'espoir dans cette chronique, parce que l'idée, c'est pas de plomber l'ambiance, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait aujourd'hui. Donc on commence
à
utiliser
des maisons en bois.
On peut construire des maisons en bois, c'est écologiquement c'est très, très utile. Et puis on commence aussi à fabriquer du béton, donc avec du sable du désert, avec des cendres issues d'incinérateurs à ordures. On commence aussi à utiliser des débris végétaux, du chanvre, voilà, tout ça pour limiter la quantité de sable consommée par l'industrie. Donc il y a une prise de conscience et les Nations Unies parlent désormais de la crise du sable comme d'une nouvelle urgence écologique, mais quand même l'idée fait son choix.
Entre l'eau et ça, on est bien barré. Merci Anne Le Gall, c'est la règle, nul déroge. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Jean-Philippe Ballas, je vous vois hausser les sourcils depuis 5 minutes, allez-y. Crachez votre venin, serpent.
Première question, est-ce que je peux récupérer le seau pour ma progéniture, déjà, avec votre pelle?
Je vais l'offrir aux invités.
Donc déjà, ça,
pour moi.
Raté.
Anne, vous avez parlé de l'Italie. En France, ça se passe comment? On n'a pas le droit de voler de sable non plus sur les plages?
Alors effectivement, on n'a pas le droit non plus. C'est passible de 1 500 € d'amende. C'est dans le code de l'environnement. C'est une atteinte au domaine maritime. On n'a pas le droit de voler du sable. On n'a pas le droit non plus de voler des galets, d'ailleurs. Il y a un seul sable qu'on a le droit
de voler,
de ramasser. C'est celui qui a été embarqué par le vent et qui se retrouve sur les routes. Celui-là, on a le droit de le prendre.
Il est chiant, mais ramasser celui-là.
Pas de sable dans les valises, s'il vous plaît.
Merci Anne Le Gall.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Se cultiver, s'informer dans la bonne humeur, c'est ce que nous propose Mathieu Noël et ses chroniqueurs Eva Rock, Olivier Pouls, tous les jours sur Europe 1 entre 16h et 18h. C'est un nouveau rendez-vous. Et on va les retrouver maintenant en compagnie de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, venu nous parler de leur film La vie scolaire.
La vie scolaire, superbe plongée dans le quotidien d'un collège de Seine-Saint-Denis. Donc, vous avez montré le film là-bas. Il a été reçu comment en Seine-Saint-Denis? Et là, j'imagine là où ça a été tourné. Comment ça s'est passé?
Très bien. En plus, on a fait tourner beaucoup de profs qui ont fait un peu de figuration, d'élèves qui ont fait de la figuration, des gens du quartier qui ont fait de la figuration sur notre film ou qui ont joué même sur notre film. Du coup, ouais, c'était émouvant pour eux. Ils voyaient un peu leur vie à l'écran. Et c'était important pour nous d'être le plus réaliste possible. On a beaucoup bossé là-dessus. Et pour l'instant, de tous les profs, tout le personnel d'établissement avec lesquels on a pu parler, on a plutôt des très bons retours là-dessus.
La rentrée va être costaud, là, parce qu'ils vont se retrouver entre profs et élèves. Ils ont joué dans un même film.
C'est vrai.
Vous voulez foutre la pagaille avant même le début de l'année scolaire.
C'est notre but. Non.
Vous avez tous les deux grandi en banlieue. Aujourd'hui, vous y vivez toujours ou vous êtes parti?
J'ai passé le périph.
Vous avez passé le périph.
Ouais.
Vous êtes à Saint-Denis. Donc, est-ce qu'il y en a un des deux qui se sent déphasé? Est-ce que Grand Corps Malade, vous vous sentez aujourd'hui déphasé quand vous revenez en banlieue ou vous y avez grandi, donc c'est toujours chez vous et vous y avez vos repères?
Ouais, non, j'ai déménagé il y a 4 ans. Donc,
ah oui, donc c'est récent, oui, ça va.
J'ai fait 36 ans de Saint-Denis, et puis mes parents y habitent, mes potes y habitent, j'y suis souvent. Non, je me sens pas du tout déphasé. Puis j'habite quand même à peu près à 15 minutes de Saint-Denis, donc j'y suis souvent. Ouais.
Mais Didier, vous avez des enfants?
J'ai un enfant, oui.
Et est-ce que
il a 6 ans.
Et donc, il est scolarisé en Seine-Saint-Denis?
Tout à fait.
Donc, vous croyez au système scolaire français, il n'y a pas de problème?
Ouais.
Vous lui faites confiance. C'est cette positivité qu'on sent dans le film, même si le film est un peu ambigu là-dessus, puisqu'il y a beaucoup d'espoir, mais aussi pas mal de fatalisme sur le déterminisme social, sur l'incapacité des jeunes à comprendre ce que peut leur apporter l'école, surtout à cet âge-là, en troisième. On ne voit pas trop le lien entre une équation et le métier qu'on pourra exercer. Ça, c'est le problème fondamental auquel sont confrontés les profs.
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un gamin du collège en général. De toute façon, quel que soit ton lieu d'habitation, tu te demandes pourquoi f de x égale x au carré, machin.
Je me suis posé la question
moi-même. Qu'est-ce que ça va t'amener dans ton avenir? Ça, quel que soit le lieu. Et puis après, oui, les gamins, ils sont pas dupes. Ils savent très bien, les mecs qui habitent la cité des Framboisins à Saint-Denis, savent très bien qu'ils n'ont pas la même chance au départ dans la vie que les autres. Et que quand tu viens de ce quartier-là, de ce collège-là, dans une classe en plus, un petit peu, où on a mis tous ceux qui avaient les moins bons résultats tous ensemble, ça aide pas pour bien rentrer dans la vie. Et ils en ont parfaitement conscience. Ouais.
Alors, il y a aussi des vrais moments de grâce dans ce film. Certains personnages sont hilarants. Eva, vous en parliez tout à l'heure, notamment cet élève totalement mytho qui invente chaque jour une excuse différente pour justifier son retard. Au-delà du fait qu'il a des excuses mytho, il a une façon de jouer qui est, je sais pas comment il est dirigé, mais enfin c'est incroyable. Il est complètement, on a l'impression qu'il est dans la lune. C'est un beau personnage. Alors donc ça va d'une grève d'Air France alors qu'il habite au bout de la rue à un animal de la taille d'une antilope qui l'a empêché de traverser la rue. Bon, en même temps on l'a tous fait.
Moi j'ai eu beaucoup de retard en primaire. Ouais. Comme en plus j'habitais presque en face, j'avais des excuses bidons, mais ça marchait toujours.
Moi je me suis pas réveillé. Du coup j'ai dit au prof que mon réveil il avait pas sonné alors que j'avais pas de réveil.
Ok, quand j'ai un cochon d'Inde et j'ai dit que mon cochon d'Inde il avait fait une crise d'asthme.
Mon hamster a fait une crise d'âge. Certains sont quand même plus imaginatifs que d'autres.
Ça, hein.
Franchement,
pas,
je vois pas en quoi ça empêche d'aller à l'école. Mais enfin bon.
J'ai la rage de pas y avoir pensé. On aurait dû le mettre dans le film.
Vous-même, Mehdi Idir, Grand Corps Malade, votre pire mot d'excuse, parce qu'évidemment, vous avez déjà rédigé vous-même un mot d'excuse, comme nous tous. Ah. Oh non, c'était des élèves studieux.
Non,
en fait, c'est que moi, j'écrivais tellement mal. Tu sais, les trucs où tu imites la signature de tes parents. Moi, j'ai jamais réussi. C'était grillé. J'écrivais comme un poney. C'était pas du tout crédible.
Alors, je vais essayer un instant de me défaire de l'esprit de Michel Drucker qui m'habite depuis le début de cette émission. Si on devait faire une toute petite critique au film, peut-être, est-ce qu'il n'est pas le film plus positif, finalement, que la réalité? Globalement, dans le film, tous les profs sont impliqués. La CPE est géniale, on va en parler. Les surveillants font le taf tout en étant sympas et drôles. Est-ce que vous n'avez pas transposé votre vision du collège des années 90 dans un contexte économique et social peut-être aujourd'hui plus dur finalement que les années 90?
Non, parce que justement, on est allé en observation dans des collèges pour vérifier ça. Et là, absolument toutes les histoires qui se passent dans le film, c'est des choses que soit on a vues sur place, soit c'est des personnages qu'on a pu voir sur place. Donc c'est un espèce de mélange justement entre ce que nous on a connu et justement je vais pas vous dévoiler la fin du film, mais on n'a pas fait une fin justement où tout se passe très bien. Voilà, on n'a pas fait une fin. On a fait une fin un peu en nuance, voilà.
Et peut-être que justement, le propos du film, c'est peut-être justement que malgré justement toutes les bonnes volontés, et en effet, quand je suis d'accord avec vous, on les a mis à l'honneur, les profs, la CPE, les élèves, on voit qu'ils sont brillants, même les parents d'élèves, on a voulu aussi les mettre à l'honneur. Alors ils sont pleins de maladresse, on voit un père qui essaye limite d'humilier son fils devant la CPE, mais pourtant c'est parce qu'il montre qu'il est présent, qu'il veut le punir, etc. Et ben malgré la bonne volonté de tous ces individus-là, on voit que ça marche pas très bien, donc c'est pas si positif que ça. Donc malgré ça, on voit que le contexte il est plus fort,
et
que le système
éducatif
fort, ça
revient souvent dans le film.
Dans ces quartiers-là, ça marche pas trop.
C'est ça qui est fort dans le film, c'est que vous montrez que c'est justement ces hommes et ces femmes qui font tourner un système scolaire qui derrière déraille complètement, et qu'aujourd'hui l'État n'est plus en mesure de faire fonctionner ce système-là, et que grâce à la bonne volonté des uns et des autres, on maintient à peu près à flot.
Merci beaucoup Mathieu Charlier pour cette analyse. On voit que vous n'êtes pas Monsieur Cinéma pour rien.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h, Mathieu Noël.
Et oui, l'équipe est sauvage, nouveau rendez-vous à retrouver tous les jours sur Europe 1, 16h-18h, de l'info, du sourire, des journalistes engagés dans une bataille de chroniques et des invités. D'ailleurs, on va rester avec Grand Corps Malade et Mehdi Idir, reçus à l'occasion de la sortie de leur film La Vie Scolaire, dans une ambiance qui va rester là aussi détendue et conviviale.
Merci. Nous passons effectivement un moment délicieux, et quoi de mieux pour entretenir cette ambiance que vous proposez un petit quiz. Quiz que je découvre en même temps que vous, histoire d'en préserver la fraîcheur et accessoirement de pouvoir m'en dédouaner si jamais il était tout pourri. Il a donc été préparé, c'est important de le préciser, par Sébastien Bordenave.
Notre producteur.
Exactement, qui se prévaut du titre de producteur artistique. Grand Corps Malade, Mehdi Idir, vous allez jouer contre Eva Rock. Clin d'œil à La Vie Scolaire, c'est évidemment un quiz sur l'école. Vous jouez tous les deux contre Eva à tour de rôle. Chaque réponse vaut un point. Grand Corps Malade, Mehdi, ça c'est pour vous. Vrai ou faux, à l'école en France, les enfants pouvaient amener du vin jusqu'en 1956.
C'est vrai.
Sauf dans le Pas-de-Calais, où une dérogation a été autorisée jusqu'en 1962. Vrai ou faux ?
Vrai. Vrai.
On embrasse nos amis du Nord, c'est faux, pas de dérogation. Merci, ça paraissait couler de source pour nos invités. Pas de dérogation, dans toute la France, l'interdiction a été prononcée en 1956.
Vous ne marquez pas de point. C'est juste la dérogation qui est faux.
Bien sûr, bien sûr. Ah bah c'est des prisonniers, vous êtes
sur Europe 1. Perfidie. Ok, on en est là.
Ils sont vicieux dans cette équipe, vous allez comprendre.
Et Baroque, vrai ou faux, en mai dernier, un professeur dans une école primaire de New Jersey a été licencié car il enfermait ses élèves dans un placard à méchants en compagnie d'une peluche à l'effigie de Donald Trump.
Je suis sûr que c'est vrai.
Eh bien, vous avez totalement tort, puisque c'est faux. Par contre, ce même professeur de New Jersey a bien été licencié, mais c'est parce qu'il avait dit à ses élèves du primaire que le Père Noël n'existait pas.
Oh. Faut être gonflé pour dire une connerie pareille.
Ouais. Une question et trois propositions, vous me donnez votre choix et ensuite je vous donne la bonne réponse. Tout le monde joue. Faire un concert dans une école, voilà une bonne idée. Taylor Swift. Vous connaissez Taylor Swift, surtout à lycée puisqu'il est jeune, a organisé un vote sur internet pour que les fans choisissent leur établissement scolaire. Mais que s'est-il passé ? 1. C'est une école pour malentendants qui est arrivée premier. 2. On a dû détruire 3 salles de classe pour faire ce concert. Ou 3. Le prof de maths a fait un solo de guitare. 37 millions de vues sur YouTube.
Qu'est-ce que vous dites, vous, Mehdi et Grand Corps Malade ?
La 3.
La 3, elle a l'air pas mal.
37 millions de vues sur YouTube pour le prof de maths.
Si tu me dis non, en fait, faux, c'était 36 millions. Là,
c'est... Mais je pourrais. Vraiment... Tu sais que je suis une bête saloperie, je pourrais tout à fait. Eva,
moi, je dis qu'il a fallu détruire 3 classes pour la salle de concert.
Et bien là, c'est très très bien. On arrive à un score total de 0-0-0-0 pour tout le monde, puisque la réponse était les internautes pour la blague se sont mobilisés pour qu'une école d'enfants sous les malentendants arrive premier. C'est ce qui est arrivé. Et Taylor Swift n'a pas fait le concert, mais elle a fait un don de 50 000 $, ce qui est assez classe. Eva Rock, vrai ou faux, Henri Matisse, le peintre, a été recalé 2 fois à l'école des Beaux-Arts.
Oh bah oui.
Non, encore un piège, c'est faux. C'est bon, c'est vraiment pernicieux. Il fallait répondre, parce que votre culture générale est immense, vous allez dire, non Mathieu, par contre, Auguste Rodin a été recalé 3 fois aux Beaux-Arts. Son niveau a été jugé à l'époque insuffisant, comme quoi un beau message d'espoir pour tous les jeunes.
Oui,
si Rodin était
recalé. Il y en a plein qui ont été recalés des grandes écoles et qui sont bons et qui ont des vrais métiers.
Rodin a continué hein, parce qu'il a fait ses sculptures par d'autres.
Ça, une accusation.
Ah, Nice. Ah, mais non, c'est vrai, il a raison.
C'est vrai. Ouais. Grand Corps Malade, Mehdi, vous connaissez sûrement la marque de glace Ben & Jerry's. Eh bien, Ben et Jerry étaient dans la même classe et comme ils n'aimaient pas la gym, ils sont devenus potes. Vrai ou faux?
Mais ça. Mais c'est
faux. Vrai Grand Corps Malade. C'est une bonne réponse. Ben Cohen et Jerry Greenfield sont les deux élèves les plus fainéants de la classe. Ils sont nuls en gym, du coup ils sympathisent en bouffant des glaces, j'imagine. 20 ans plus tard, le Time Magazine donne à ces deux Américains le titre de meilleure glace du monde.
J'ai eu peur que la réponse soit non, c'était Agendas. J'ai eu peur de ça à un moment donné.
Moi je m'attendais à ça aussi, mais je découvre avec vous. On termine ce quiz, c'est la question qui va vous départager. Pour l'instant, il n'y a que Grand Corps Malade qui a marqué un point. Une question, trois propositions, vous me donnez votre choix, je vous donne la bonne réponse. En France, en Isère, en début d'année, qu'a fait le maire pour éviter qu'une classe ferme ? 1. Il a ouvert une cagnotte litchi pour payer le prof sur une année scolaire entière. 2. Il a fait redoubler 7 élèves. 3. Il a inscrit 15 moutons.
Je la connais la réponse, ouais.
Comment ça, vous la connaissez
la
réponse ?
Je la connais. Non, franchement, je la connais.
Vous habitez ce village-là ?
Non, même pas, encore malade.
Non, elle est la mère d'un des moutons, puisque le maire, Jean-Louis Marais, en mai dernier, a officiellement inscrit 11 moutons auprès du rectorat. Il a même envoyé les certificats de naissance, et ce grâce à la complicité d'un éleveur des environs. On vous dira les jours prochains si le stratagème a réussi, sachant qu'on vient de le griller à l'antenne, c'est pas sûr. Autant pour nous, Jean-Loup, égalité parfaite sur ce quiz.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël
et sa complice, Eva Rock, toujours entourée bien sûr de ses invités. Là, en l'occurrence, il s'agit de Bruno Salomon, qui était venu nous parler de son show du futur. Et puis nos journalistes, Nicolas Carreau, Ève Roger, Axel de Tarlé et Alain Sirot.
Notre expert scientifique, directeur de la revue Ciel et Espace, Alain, on me dit que pour cette chronique, vous avez espionné Donald Trump au cœur du bureau ovale. Ne prenez pas trop de risques quand même, c'est une émission de divertissement.
Oui, mais vous vous souvenez de cet été, hein, les 50 ans de l'homme sur la Lune, les voyages extraordinaires dans le ciel racontés par Jules Verne. Et c'est vrai qu'on se dit toujours, mais qui a inventé ça ? Mais qui a décidé de ça ? Et c'est vrai qu'au mois de juillet, il y avait une réunion dans le bureau ovale à la Maison Blanche pour décider du futur. Où est-ce qu'on ira, sur la Lune ou sur Mars ? Et là, on ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer, de se souvenir des grands hommes, leur grande vision, et en particulier de Kennedy en 62. Vous vous souvenez peut-être juste le ton.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Voilà, on a choisi d'aller sur la Lune, non pas parce que c'est facile, mais justement parce que c'est dur. Difficile. Et là, c'était les 50 ans, dans le bureau ovale. Il y avait donc quelques personnages, beaucoup de personnages, assis Donald Trump, toujours assis, le chef, et puis autour de lui, on va juste s'intéresser à quatre personnages, trois personnages exactement. Le premier personnage, c'est Mike Collins. Oui, c'était le gars qui est tourné autour de la Lune avec Apollo 11. Aujourd'hui, il a 88 ans, c'est une petite pomme ridée, un monsieur tout souriant qui ne dit pas un mot.
On l'embrasse, il nous écoute.
Il nous écoute, voilà.
Little Apple.
À côté de lui, Buzz Aldrin, le second à avoir marché sur la Lune, vous savez, 89 ans, second piéton. Et lui, alors pour le compte, il est plutôt imprévisible et on se souvient aussi, enfin en tout cas, on ne le savait pas en tout cas, que ses enfants avaient passé un deal avec la NASA longtemps de cet anniversaire parce que il était accusé par ses enfants de démence, d'irresponsabilité.
Donc il a toujours été un peu grande gueule, Buzz Aldrin.
Mais là carrément, il est vraiment accusé par ses enfants en disant on veut le mettre à l'asile. Donc on a dit non, surtout pas ça. Tranquille pour les commémorations. Donc il y avait ces deux personnages. Et puis le patron de la NASA, Jim Bridenstine, qu'on va appeler Jim, oui, administrateur, 44 ans, un ancien pilote. Un peu garçon bouché, vous voyez, un petit peu bien dans sa peau, un peu rouge.
Un peu rouge.
On le voit vraiment devant l'établi, en quelque sorte.
Mais compétent, quand même.
Très compétent. Représentant républicain de l'Oklahoma, à qui Donald Trump a dit il y a 3 mois « On retourne sur la Lune et en 2024, je veux tout de suite 2024 !»
Le mec, il a dû avoir des sueurs froides, quoi.
Terrible, parce que 2024, pour tout le monde, c'est absolument impossible. Et on assiste, à ce moment-là, à un moment extraordinaire où Trump regarde les gars en disant « Bon, allez, ça y est, on a été sur la Lune, maintenant c'est sur Mars, hein, Jim ?» Et le Jim, comprenant que Trump a complètement oublié, Monsieur le Président... On avait dit la Lune, enfin c'est déjà difficile, vous savez, parce que Mars, c'est vraiment très très loin. Et Trump, un peu étonné, se tourne à ce moment-là vers Buzz Aldrin, dit « Et vous, Buzz, vous en pensez quoi ?» Alors Aldrin fait « Mars, direct !» Mars, directement. Et Trump se retourne avec un air goguenard vers le Jim, toujours patron de la NASA, en lui disant « Bah alors, vous ne pouvez pas les écouter, ces deux-là, ils ont de l'expérience. Vous pourriez les embaucher, eux au moins, ils savent de quoi ils parlent.
»
Alors ça, c'était le grand
moment. On rappelle à nos auditeurs, Alain, que là, vous n'inventez pas. Livrez la vraie conversation de Donald Trump et le directeur de la NASA.
C'est la conversation enregistrée, filmée. Et là, on se dit, mais c'est incroyable. Et la conséquence, je veux dire, la leçon, en tout cas, la conclusion de cette scène, c'est deux choses. Les grandes décisions ne se prennent pas toujours là où on le pense. Et là, c'est très clairement que les Américains vont évidemment retourner sur la Lune parce que c'est plus facile, c'est plus près. mais c'est le Congrès qui décide. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a une caricature dans cette affaire-là qui nous fait penser au cinéma. Et effectivement, on aurait pu se croire dans un film avec des dialogues, peut-être d'Audiard. Vous vous souvenez, il est con comme la lune, mais chez lui, il n'y a jamais d'éclipse. Bon, finalement, la conclusion de ça, on va le faire en anglais, c'est « The show must go on ». Le spectacle continue.
Joli travail pour cette première chronique, Alain Ciro. Mais il y a la question vache de l'autre chroniqueur, chroniqueuse en l'occurrence, Ève Roger. Ça vous intéresse ?
Alors, pas tellement. Pas tellement parce que les histoires d'espace m'intéressent assez peu.
Et
d'ailleurs, ça fait 50 ans qu'on parle des premiers pas sur la Lune. Et au fond, à quoi ça aboutit ? Est-ce qu'on y va passer le week-end ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui y habitent ? Non. Alors, à quoi bon ? À quoi bon encore vouloir aller ailleurs ? Franchement, Alain, je le pose la question sincèrement.
C'est vrai que c'est beaucoup d'argent.
À quoi ça sert d'être allé sur la Lune il y a 50 ans ?
Bien sûr, mais c'est des questions d'enfants. C'est évident. Moi, je réponds toujours dans les écoles quand on me pose la question : à quoi sert la curiosité ? À quoi sert la musique ? À quoi sert la littérature ? À quoi sert le spectacle de Bruno Salomon ?
Effectivement, vous n'allez pas trop loin, Alain. Voilà. Vous pas que...
Donc, c'est la vie. Voilà, exactement. Et en fait, on apprend toujours, finalement, de la curiosité. C'est
mais...
beau.
Merci beaucoup, Alain Ciro.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Toujours entouré d'Eva Rock, de son invité, ici en l'occurrence la journaliste présentatrice de Cache Investigation et envoyée spéciale Élise Husset, et bien sûr les journalistes de la rédaction d'Europe 1, Nicolas Carreau, Alain Ciro, Mathieu Charrier ou encore Axel de Tarlé.
C'est bien lundi que nos chères têtes blondes reprennent le chemin du tableau noir. Oui, c'est vrai que ça fait un peu Troisième République comme lancement.
Ah, carrément.
Bon, maintenant qu'ils ont des iPads dans toutes les classes. En tout cas, une question se pose pour nous, parents. Comment recaler ces chers petits anges qui ont pris l'habitude durant les grandes vacances de se coucher à pas d'heure et de faire un boucan d'enfer ? Une solution était proposée par Jacques Villeray dans Papy fait de la résistance.
Je vais finir par distribuer des petits bonbons au cyanure à tout le monde et il y aura moins de bruit, croyez-moi.
Ce n'est pas en 2019 une solution pérenne. Voilà pourquoi nous accueillons à présent Audrey Hacoun. Bonjour, vous êtes psychothérapeute.
Bonjour.
Alors, plus que trois jours, c'est la rentrée des classes, trois dodos, comme on dit aux enfants. Comment retrouver le rythme d'une année scolaire ? Comment reprendre les bonnes habitudes ? Offrez-nous, Audrey, un kit de survie pour parents en détresse. Déjà, est-ce que la nécessité de retrouver des heures de sommeil habituelles ne concerne que les enfants ou les adultes aussi sont concernés ?
Alors, ça concerne exactement tout le monde pendant
toute
plusieurs...
la famille,
mais bien
de
sûr,
se recaler.
Pendant plusieurs semaines, on a eu un rythme de vacances, on s'est couché tard, les parents, les enfants.
Le rosé pour certains.
C'est ce que j'allais dire. arrive la rentrée. Certains sont déjà rentrés plus tôt et ont peut-être eu le temps de se recaler un peu plus, mais d'autres arrivent au dernier moment, parfois même deux jours avant, la veille de la rentrée. Là, on se dit, 7h, lundi matin, il va falloir se réveiller. Donc, pas de panique. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, de toute façon, pour se recaler, il faut plusieurs jours. 5, 7 jours, parfois même pour certains 10 jours.
C'est pour ça que je suis tout remplacé.
Donc
là.
On n'est pas obligé d'être taquet dès lundi matin. On a le droit d'être encore un petit peu fatigué.
On a le droit d'être en retard lundi matin à l'école,
alors,
c'est ce que vous dites.
En retard, je ne sais pas si on a le droit. On a le droit en fait, mais après on assume les conséquences. Ça fait un peu mauvais genre le premier jour. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est de se dire que progressivement on va se recaler. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on essaye absolument de coucher les enfants plus tôt. Ça veut dire qu'on essaye de les lever plus tôt. Et notamment. On commence par le lever. Et notamment pour les ados qui ont eu peut-être l'habitude, et puis en plus c'est normal, hein, y a le chamboulement hormonal qui fait que les ados ont tendance à dormir plus tard le matin, on va essayer de les réveiller plus tôt et ils vont se recaler naturellement parce qu'au bout d'un moment ils seront fatigués. Donc quand ils seront bien fatigués, ils dormiront.
Les écrans, qu'est-ce qu'on fait ? On les bannit le soir ?
Mais bien évidemment, les écrans.
Eva, je vous demande votre iPad.
Mais même pour les adultes, y a des études qui prouvent en fait qu'il faut minimum entre une demi-heure et une heure de déconnexion totale avec les écrans pour favoriser une bonne qualité de sommeil. C'est valable pour les enfants, c'est valable pour les adultes. Pour les enfants, ça va même encore plus loin. On sait qu'il faut limiter les écrans. Moi, j'ai rien contre l'utilisation des écrans, c'est juste d'en faire une utilisation raisonnée. Avant 3 ans, on essaye de pas d'écran, c'est ce qu'on dit. Après 3 ans, et même pour les ados, l'ordinateur dans la chambre, le téléphone dans la chambre où il y a des ados à 2h du matin qui envoient des Snapchats encore, ça n'est pas possible. Ça perd perturbe la qualité de sommeil et ça entraîne des troubles de la concentration et de la mémorisation. Donc, ça n'est pas favorable pour les apprentissages.
Donc, Eva, vous avez noté, on arrête de swiper sur Tinder à partir d'une certaine heure. Hein,
vous, voilà. Vous jusqu'à 23h, on a le droit.
Vous déconnectez. Le sport.
Donc, je me déconnecterai aussi pour le travail. Donc, arrêtez de m'envoyer des SMS
à
minuit.
Non, vous restez joignable. Vous restez joignable par fax. Le sport dans tout ça. On a fait beaucoup de sport pendant l'été. Les jeunes, en tout cas, se sont beaucoup dépensés. Est-ce qu'on maintient une activité
d'ailleurs.
Oui, ou pas, certains, c'est vrai.
Ouais, les ados, parfois pas du tout.
Ou pas du tout. Exactement.
Genre haricots verts posés sur un canapé.
Sans parler de sport et de pratique sportive, bien évidemment que c'est bien d'avoir une pratique sportive, je parlerai plus d'activité physique. Et la meilleure chose pour se recaler et pour favoriser une bonne santé du cerveau qui est censé se mettre à travailler, c'est au moins d'être exposé entre une demi-heure et une heure par jour à la lumière du soleil et de marcher, au moins de marcher une demi-heure par jour.
Ça marche pas beaucoup un ado.
Oui, ça ne marche pas beaucoup.
Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'elle dit quand même. Être exposé au moins une demi-heure par jour à la lumière du soleil.
Mais, non, mais là, c'est dingue qu'on en arrive là. Mais quand on va arriver vers l'automne, on a de moins en moins de soleil et les horaires font qu'on quitte la maison, il fait nuit.
Oui, ça,
on rentre
vrai.
À la maison, il fait nuit. Et au milieu, ils sont assis pendant 6 heures par jour, ce qui est une hérésie pour le, pour le cerveau. Donc on bouge, on achète un punching ball, on leur fait faire du trampoline sur le lit. Je ne sais, peu importe en fait, mais il faut bouger pour avoir un cerveau en bonne santé.
Et juste, Audrey, pour finir, quels sont les signes qui indiquent une grande fatigue chez l'enfant ? Qu'il faut savoir guetter pour voir si son enfant est vraiment fatigué.
Physiquement, les cernes. Les cernes déjà, ouais. Un enfant peut avoir des cernes, ça existe. Et puis, si on n'arrive pas à le lever le matin, s'il est vraiment fatigué, ça se voit, les troubles de la concentration et les troubles de l'humeur. Quelqu'un de fatigué, et notamment les enfants, mais les adultes aussi, développe plus d'instabilité émotionnelle et de réactivité émotionnelle. Donc, si votre enfant qui a une nature plutôt sympa, commence à devenir très très relou. Eh bien, c'est un signe qu'il est fatigué.
En même temps, on est un peu pareil, non ?
Mais c'est, non, c'est valable c'est pour nous.
On est tous des grands ados.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il est 16h47, 2h donc pour se détendre tout en boostant sa culture générale. C'est la promesse de Mathieu Noël tous les jours entre 16h et 18h sur Europe 1. Et le week-end, on reste dans l'ambiance, bien évidemment. Il est accompagné d'Eva Roch, d'Olivier Pouls, des journalistes d'Europe 1 engagés dans une bataille de chroniques, vous le savez à présent, et de ses invités. Alors, en l'occurrence, Amélie Nothomb pour la séquence qui va suivre. Elle était venue nous parler de son livre « Soif face à Amélie Nothomb ». Eh bien, il y a Jean-Philippe Ballas.
Face à vous, rongeant son frein dans les starting blocks, se trouve Jean-Philippe Ballas. Auteur, comme le dirait par euphémisme un commentateur de tennis de France 3 au sujet d'un joueur français éliminé au deuxième tour de Roland-Garros, d'un début de compétition compliqué. 0 point en 4 jours, c'est vrai que c'est pas simple. Mais attention, un champion blessé est un champion dangereux. Et comme j'ai fini de dire n'importe quoi, c'est à vous Jean-Philippe.
Alors je sais pas si vous avez remarqué les amis, mais c'est presque devenu un réflexe. Maintenant, dès qu'il y a une embrouille, une altercation dans la rue, vous dégainez alors. Pas votre pied de biche, non, vous dégainez votre téléphone portable et vous le mettez en mode vidéo, genre « Attention, je te filme, t'es même pas capable de me répéter ce que tu viens me dire, je vais diffuser tout ça, tu vas voir comment t'es bien ridicule et comment tu vas avoir bien des problèmes, mon petit bonhomme. » Ça se fait beaucoup ces derniers temps aux États-Unis, parfois ça vaut vraiment la peine, on va le voir, et ça finit même par être assez drôle. Je vous emmène dans une zone pavillonnaire du côté de Dallas avec une dame pas contente du tout. Il y a un food truck, vous savez, ces camions, ces petits restos ambulants. Il y a un food truck qui vient de se garer devant chez elle et qui vend des tacos. Est-ce que vous entendez derrière moi l'embrouille qui commence ? Ben ça, c'est la dame qui déboule en brandissant son téléphone portable, qui filme la vendeuse dans le camion et qui se laisse aller à quelques commentaires bien racistes du genre « Jeune fille, je vais vite appeler la police de l'immigration ». Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle, la vendeuse de tacos ? Bah elle aussi, elle sort son téléphone
portable contre
elle aussi. Ah ouais, je ne sais pas si vous imaginez la scène. Donc les deux en train de s'invectiver en brandissant leur téléphone portable sous le nez. Elle filme la vendeuse, donc elle met la vidéo en ligne. Vidéo qui va être très partagée sur les réseaux, notamment au sein de la communauté latino, qui va réagir de la plus belle des manières. Vous entendez les mariachis
derrière moi ? Vous aussi, vous avez le goût des sons de qualité, Jean-Philippe. Ça, loin des clichés.
Ça, c'est un orchestre qui débarque quelques jours plus tard, oui, dans la rue de la Dame pas contente, devant sa maison, oui, un orchestre en costume avec les chapeaux, les trompettes, les dorures et tout. Il y a même un pique-nique géant qui a été organisé dans le quartier. avec des tacos, évidemment. Alors, la dame, pas contente, elle n'est pas sortie de chez elle. Elle était quand même un peu embêtée. Quelques jours plus tard, elle a donné une interview à la télévision pour dire qu'elle avait été un peu maladroite, qu'elle essayait de vendre sa maison, qu'elle n'est pas vraiment raciste. Penses-tu, mon ami ?
Que sa meilleure amie était portoricaine.
Voilà, pour savoir un peu plus sérieusement que ça devient une vraie arme de dissuasion aux États-Unis pour les gens victimes d'actes de racisme. Ils sortent les vidéos et c'est vrai qu'on voit tout le ridicule de ces gens dans ce genre de situation.
Et Baroc ?
Ça, c'est une chose qui ne peut pas vous arriver, mais Nothomb, parce qu'il me semble que vous n'avez pas de portable.
Je n'ai pas de téléphone portable, je n'ai absolument rien, je suis... 100% analogique, le numérique ne passera pas
mais
par moi.
Vous avez reçu mon fax quand même.
Absolument pas.
Pas le fax. Merci Jean-Philippe, papier à la fois bien mené et informatif. Hélas, à vos côtés, il y a votre rivale dans cette manche, Anne Le Gall. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Alors Anne, vous avez une question pour Jean-Philippe.
Alors d'abord, je salue le talent de narration de Jean-Philippe Ballas et la réalisation artistique de cette chronique. Mais il y a une information que j'attendais que je n'ai pas eue. Quelle est la valeur juridique de ces images devant les
Exactement,
tribunaux ?
Exactement, c'est la question que je me posais moi aussi, Jean-Philippe. Répondez-nous.
Quelle condescendance dans la question d'Anne Le Gall. J'ai envie de vous répondre. Il y a le tribunal, alors certains diront hélas, mais il y a le tribunal aujourd'hui des réseaux. Finalement, c'est ça qui fait qu'on sort une vidéo et ça se règle très vite. Voilà, tout simplement.
Mais on ne connaît pas la valeur juridique pour autant. Est-ce qu'on peut produire en justice une vidéo captée depuis son téléphone portable ?
Oui, c'est un argument pour un avocat, évidemment.
Bah, vous savez, je crois que par exemple les SMS ne sont pas pris en compte. Ou des choses qui paraissent
évidentes. Les SMS ne sont pas pris en compte.
Je ne crois pas. Enfin, il faudrait une vérification. Il me semble.
Et il me semble que le son aussi n'est pas toujours une pièce juridique.
Et là, le son, Dieu sait qu'il était important.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
S'informer, se cultiver tout en s'amusant, c'est l'objectif de l'équipe est sauvage. Les journalistes d'Europe 1 s'affrontent et tentent de séduire les invités de Mathieu Noël tous les jours, tous les après-midi entre 16h et 18h sur Europe 1 en proposant leur meilleur sujet, une compétition. Bon enfant, on vous rassure. Alors on va retrouver Mathieu Noël, toujours en compagnie d'Eva Rock, mais aussi d'Olivier Pouls et de l'invité, la journaliste et présentatrice de Cash Investigation, envoyé spécial et les UC.
C'est toujours les mêmes regards, les mêmes gestes. Les journalistes en compétition pour le titre de chroniqueur du jour se toisent comme dans les sept mercenaires. L'atmosphère est saturée d'animosité, d'autant que l'odieuse Eva Rock commente les performances des uns et des autres.
Bien fait pour lui. Hein.
Heureusement, c'est vraiment dégueulasse de sa part. Heureusement, nous n'y sommes pas encore tout à fait. Et c'est au contraire un vent de générosité. J'ai envie d'inventer le mot de bon vivance qui souffle dans le studio puisqu'on accueille notre expert en gastronomie de crise. À la question, l'aile ou la cuisse, il répond toujours les deux, mon capitaine. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu, bonjour Eva, bonjour Alain, bonjour Élise, bonjour tout le monde.
Alors ça y est, vos trois mois de vacances sont donc terminés. Fini de se la couler douce à Chablis, parce qu'il faut dire que depuis quelques jours, Olivier a commencé l'année en étant en duplex, depuis Saumur en Auxois, Chablis.
Allez-y Olivier, il a dit trois mois de vacances, comme quoi, au mois de juillet ? C'est lui qui était en vacances.
Oui, puis il s'est invité chez moi en plus.
En plus, il s'est invité chez moi.
Parce qu'il sait qu'on mange bien et que la cave est bonne.
Mais nos auditeurs ne veulent pas savoir.
On travaillait au mois de juillet, mon cher Mathieu.
Oui,
on était à l'antenne tous les jours avec
Olivier Pouls. On peut cafeter le présentateur aussi. On n'est pas obligé de cafeter que les chroniqueurs.
Voilà. C'est pas faux. C'est vrai que j'ai pris plus de vacances que vous. Chaque après-midi, vers 6h moins le quart, vous nous dégainez, Olivier, une recette dernière minute pour tous ceux qui, comme moi, ont oublié de faire leurs courses pour ce soir. Aujourd'hui, c'est la Mirabelle qui vous a inspiré. D'habitude, vous la dégustez uniquement sous forme de liqueur. Cette fois, vous tentez le fruit directement.
Effectivement, Eva doit préparer le dessert pour ce soir, puisqu'apparemment, il y a un petit repas auquel je ne suis pas convié, mais ça, c'est pas grave. Élise, je vous ai apporté quelques mirabelles.
Ah, ça, j'adore.
Elles ont été cueillies hier, des mirabelles de Lorraine. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces mirabelles de Lorraine ?
Eh
bien, un clafoutis.
Ah, j'adore aussi.
Alors, normalement, le clafoutis, c'est les cerises. La recette originale, limousine de tradition, c'est la cerise noire. Et la cerise noire, dénoyautée, dois-je préciser. Et nous allons procéder de la même manière pour les mirabelles. On ne va pas, alors on va gagner un peu de temps, mais la cuisson en fait avec les noyaux a un vrai intérêt, c'est que ça va donner plus de goût. Ça va permettre...
Pourquoi il y a plus de goût quand on laisse les noyaux?
Mais parce que les noyaux apportent du goût au moment de la cuisson. Ils permettent de tenir le fruit, mais surtout c'est comme cuire une viande avec l'os ou un poisson avec ses arêtes. Ça donne du goût. Donc les 500 grammes de mirabelles, les voilà. Vous trouverez bien dans votre frigo.
Il n'y en a pas 500 grammes, j'en ai déjà mangé 5 ou 6.
Oui, il en manque un peu. Vous trouverez bien dans votre frigo 3 œufs, 100 grammes de farine, 100 grammes de sucre roux de préférence, c'est meilleur, 15 centilitres de lait. Moi, je rajoute 10 centilitres de crème.
Ça
on la gourmandise. Et puis 50 grammes de beurre. Alors, c'est très simple. Vous allez nettoyer simplement ces mirabelles, on ne les dénoyaute pas, je l'ai dit. On va prendre les œufs, on va les battre, on va rajouter le sucre par-dessus, on va continuer à mélanger, la farine en pluie, on fait fondre le beurre, on en garde un tout petit morceau pour chemiser et graisser un peu notre plat. On va faire fondre le beurre qu'on va rajouter, on termine avec la crème et le lait. Voilà un appareil à clafoutis, il n'y a plus qu'à disposer vos mirabelles dans le plat. Versez cet appareil à clafoutis par-dessus, préchauffez le four 180 degrés, cuisson 45 minutes et vous attendez Mathieu.
Chaleur tournante ou pas ?
Chaleur tournante, bien sûr, si
pour
vous
la
pouvez.
Pâtisserie, enfin Mathieu !
Mais
pour
pourquoi vous êtes méchante avec moi, Élise ? Je ne sais pas, je suis nulle, moi, en pâtisserie. C'est Olivier Pouls qui cuisine chez moi.
Je ne suis pas terrible en pâtisserie non plus, mais quand même.
Merci, Olivier Pouls, qu'on retrouve dès demain dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte, tous les samedis à 11h sur Europe 1.
Moi, je le fais dès ce soir, le clafoutis.
Ouais. Et, ben voilà.
Ah ouais. Et on ne met pas un peu de kirsch ou un truc comme ça okay.
Désolante et varoche.
Si vous voulez rajouter un petit touche alcoolisée, c'est plutôt de l'alcool du Mirabelle plutôt que
oui, c'est plus logique.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Et oui, l'équipée sauvage, nouveau rendez-vous qui vous propose de concilier bonne humeur, culture générale, esprit de compétition, puisque tous les après-midi, les journalistes d'Europe 1 s'affrontent à coups de chronique et essaient de remporter la compétition. Et donc de 16h à 18h, vous pouvez bien sûr voter, puisqu'en fin d'émission, on peut élire le chroniqueur du jour. Vous les départagez sur Twitter et Facebook. Et puis l'invité aussi a son rôle à jouer, il a un petit rôle d'arbitre. Et son vote compte aussi. Alors on va retrouver Mathieu Noël, toujours entouré d'Eva Rock, mais aussi des journalistes Axel de Terlet, Mathieu Charrier, Alain Sirou, Nicolas Caro et l'invité, la journaliste présentatrice Élise Lucet.
La compétition reprend ses droits. Voici un nouveau compétiteur, issu lui aussi du bas du tableau du championnat européen des journalistes. Il s'agit de notre expert littéraire Nicolas Caro, qui pourtant mercredi ne s'était pas économisé pour taper dans l'œil de notre invité Bruno Salomon avec une efficacité qu'on qualifiera de mitigée.
Moi je peux imiter Bruno Salomon si vous voulez.
Ah ouais, vas-y.
C'était le cochon d'Inde.
Ah ouais.
Oui, moment délicat. Nicolas, oublions ce fâcheux précédent. Aujourd'hui, c'est sûr, vous allez renouer avec le succès. Avec un thème qui va forcément plaire à Élise Lucet.
Mais oui, parce que peut-être qu'un jour, Élise Lucet, elle aussi, aura sa statue à New York, comme Nelly Bly. C'est le projet en cours.
À New York.
Sur l'île de Roosevelt Island, entre Manhattan et le Queens, pour rendre hommage à cette femme, Nelly Bly, qui est donc la pionnière du reportage clandestin à la fin du 19e siècle. Le reportage clandestin, c'est se rendre dans un lieu de reportage sans décliner son identité, d'essayer de faire partie du décor pour observer tranquillement ce qui se passe vraiment. C'est ce qu'a fait Nelly Bly, notamment dans un asile d'aliénés. Je vous raconte son histoire. Elle est donc journaliste. En 1887, elle est engagée au New York World. Au passage, son rédacteur en chef s'appelle Joseph Pulitzer. C'est lui qui a créé le prix du même nom. Elle est jeune à l'époque, elle a 23 ans. Elle a entendu dire qu'il y avait de gros problèmes dans les asiles psychiatriques, des histoires de maltraitance, des choses comme ça. Elle voudrait aller voir, mais comment faire? Évidemment, si elle fait une visite officielle, elle ne va rien voir du tout. Alors, elle décide de se faire passer pour folle.
Ah, c'est génial.
Elle prend d'abord une chambre dans une pension et une fois là-bas, elle fait son numéro de comédienne. Son truc, entre autres, c'est d'expliquer à tout le monde qu'elle a perdu ses amis, les troncs d'arbres. Elle cherche ses troncs d'arbres partout et ça ne manque pas. On appelle les flics. Deux policiers débarquent et lui disent « Oui, oui, on va chercher votre tronc d'arbre, madame, venez avec nous. » Donc, ils l'embarquent. Je vous passe les détails, mais elle est effectivement déclarée folle. On l'emmène à l'hôpital psychiatrique dans l'asile de Blackwell's Island, un endroit assez terrifiant et ce qu'elle va découvrir dépasse l'entendement. Justement, la brutalité, la cruauté, les infirmières qui traitent mal les patients, la nourriture immangeable, le froid, parce qu'on fait des économies de chauffage et du coup les patients ont les lèvres bleues, la sécheresse aussi des médecins qui prennent à peine le temps d'écouter les malades. Elle note toutes les humiliations et les brimades diverses. Au bout de 10 jours, elle a ce qu'il faut. Et surtout, elle n'en peut plus, alors elle veut sortir. Mais autant, c'est assez facile d'entrer dans un asile psychiatrique.
Mais oui, mais c'est ça.
Mais
elle
pour sortir,
bloquée.
Même si vous dites au médecin chef,
oui,
en fait, voilà, je suis journaliste
d'investigation.
Surtout que ça n'existe pas, la journaliste femme à l'époque. Donc c'est encore plus folle. Elle va finalement sortir grâce à l'intervention du rédacteur en chef. Et elle publie son enquête. Énorme succès. $1 million supplémentaires vont être attribués à la prise en charge des malades mentaux grâce à son reportage. Et on peut le trouver dans un livre qu'elle a publié ensuite, 10 jours dans un asile. Il a été publié en français d'ailleurs très très récemment, il y a 2 ans, par les éditions du Sous-Sol. Elle est hyper connue aux États-Unis, pas trop en France pour l'instant. Il y a aussi le Tour du Monde en 72 jours. Elle veut battre le record fictif de Jules Verne, de Phileas Fogg. Elle part donc et elle publie au fur et à mesure de son voyage ses aventures dans le New York World. Elle prend le bateau, elle a le mal de mer et elle entend un homme derrière elle dire... et ça prétend faire le tour du monde, ça. Il y a plein de misogynie partout, tout le temps, évidemment, parce que là encore, une femme qui voyage seule, ça n'existe pas. En France, elle va rencontrer même le couple Verne, elle passe quand même les voir. Et c'est charmant cet épisode, parce qu'elle raconte comment Madame Verne ne parle pas anglais, mais donc elle lui fait des sourires, elle lui fait la bise à la fin, Madame Verne. Et ça, elle trouve ça délirant pour une américaine. Voilà, c'est très joli et c'est hyper bien fait, c'est hyper intelligent. Et elle a réussi son pari d'ailleurs, elle a réussi à faire 72 jours, le tour du monde en 72 jours.
Élise Lucet, vous connaissiez Nelly Bly ?
Eh bien non. Et c'est très étonnant parce que je trouve ça extraordinaire.
C'est vrai que Nicolas n'ait pas inventé cette histoire de toute pièce pour vous séduire. Merci Nicolas Caro.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Pour se détendre tout en se cultivant, oui, Mathieu Noël, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1, tous les après-midi et même le week-end, parce qu'on se remet dans l'ambiance. Autour de la table de Mathieu Noël, donc Eva Roch, bien sûr, mais aussi les journalistes d'Europe 1 venus défendre leur sujet. Anne Le Gall, nous avons Pauline Jacquot, Jérôme Lacroix, Jean-Philippe Ballas, et puis l'invité, évidemment, en l'occurrence, l'écrivain Amélie Nothomb, pour évoquer son nouveau roman, Soif.
Étant en plus une merveilleuse cliente, il faut le dire, des émissions télé et radio, on vous ressort toujours les mêmes grands thèmes. Oui, vous avez un lien particulier avec le Japon, vous avez vécu... Là, l'animateur s'exclame « Oh, fascinant, Japon, culture millénaire !» Bref, bon, ça c'est fait, clac. Il y a aussi toujours un moment où, en bon français, on aime vous ramener au fait que vous êtes belge. Oui, parce que lorsqu'on dit Belgique, on pense trop vite Brel, alors qu'on peut aussi penser Grand Jojo. On l'oublie trop souvent. Bref, les poncifs habituels ayant été écartés d'un revers de la main, on peut parler de ce 28e roman, Soif, où vous vous mettez donc à la place de Jésus et vous imaginez ce qu'il a pu ressentir avant, pendant et même un peu après la crucifixion. C'est un livre qui étonne, mais qui vous nous l'avez dit, vous travaillez depuis longtemps. Jésus, c'est votre idole.
Ben depuis que j'ai 2 ans et demi, j'avais 2 ans et demi quand mon père m'a expliqué qui était Jésus. Je viens d'une famille catholique, donc c'est normal qu'on initie les petits-enfants à Jésus. Mais je ne pense pas que mon père s'imaginait qu'il allait provoquer un tel effet chez moi. Parce que quand il m'a expliqué, j'ai pensé, mais bon sang, c'est donc lui, ce type qui me parle dans la tête constamment. C'est lui, Jésus, c'est formidable, c'est mon meilleur ami. Il a été mon meilleur ami toute mon enfance. À l'adolescence, ça s'est un petit peu gâté. C'est-à-dire qu'auparavant, je savais qu'il avait été crucifié, mais en fait, ça m'était complètement égal. À l'adolescence, j'ai découvert la souffrance et tout à coup, je me suis dit, mais en fait, Jésus, il a été crucifié, mais quelle horreur! Et on nous propose ça comme quelque chose de bien, mais c'est une abomination. Donc, j'ai essayé de me brouiller avec lui. Mais ça n'a pas marché. Donc j'ai résolu que je ne le comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais que c'était mon copain quand même. Mais ça m'a quand même beaucoup travaillé. Et voici le résultat de tant d'années de rumination. C'est que j'ai écrit ce livre pour comprendre pourquoi il avait accepté d'être crucifié.
L'histoire ne vous plaisait pas, vous l'avez réécrite. C'est ça, c'est bien d'être Amélie Nothomb.
C'est-à-dire que je l'ai écrite de l'intérieur. Alors, je préviens tout de suite les gens, non, il n'y aura pas une autre fin. Je suis désolée, il meurt quand même à la fin. Mais au moins, on comprend pourquoi.
J'ai lu dans une interview que vous identifiez souvent à vos personnages. Alors, on va rester simple, mais est-ce que vous êtes Jésus ? Est-ce que vous vous sentez Jésus ?
Bien sûr que non. Ah bon ? Mais pendant que j'écrivais, je devais me rapprocher autant que possible, sinon de Jésus, au moins de sa situation. Il y a une moitié du livre qui se passe sur la croix. C'est pas un hasard si j'ai écrit le livre à la première personne du singulier. Je devais vraiment placer ma caméra à l'intérieur de lui pour savoir au maximum ce qu'il avait pu ressentir pendant la crucifixion.
Quel serait le premier miracle que vous pourriez réaliser si vous étiez Jésus ?
Je transformerais l'eau en champagne.
Nous aussi. On sent à travers ce livre Soif, donc Soif sur les sensations de Jésus sur la croix, on sent à travers ce livre que vous avez voulu réhabiliter ce qui a longtemps été dénigré par la tradition catholique, justement, le corps. La soif, c'est la soif que Jésus ressent sur la croix et qui faisait, dit-il, partie de ses plus grands plaisirs sur terre, un plaisir corporel. Pour vous, l'Église s'est juste complètement plantée en diabolisant le corps ?
Complètement planté, c'est un contresens. Enfin, Jésus est incarné et on voudrait nous faire croire que le corps est une mauvaise chose et qu'il faut au contraire s'élever dans les régions spirituelles. Mais ce qui fait que nous sommes des gens, dans le meilleur des cas, sympathiques et bons et capables d'amour, c'est le corps. Ce qui nous rend au contraire pervers, c'est de nous éloigner du corps.
Vous dites également, ce qui me plaît en Jésus, c'est qu'il est un homme comme nous. J'ai cette idée folle que chacun d'entre nous pourrait être Jésus. Mais ce n'est pas une idée folle ça, Amélie Nothomb. Ça ressemble au bouddhisme.
Mais tant mieux. Écoutez, moi, j'ai grandi en Extrême-Orient, donc j'ai peut-être en effet une conception très bouddhiste du catholicisme. Mais tant mieux, je pense que le bouddhisme a énormément apporté au catholicisme. De toute façon, je trouve insupportable qu'il faille choisir une religion. J'aime qu'on aille prendre dans toutes les religions ce qui est bien.
Je le pense aussi, comme quoi les grands esprits et les moins grands se rencontrent parfois aussi.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage, nouveau rendez-vous sur Europe 1, donc de 16h à 18h, même le week-end, hein, c'est tous les jours sur Europe 1. On va le retrouver aux côtés de sa complice Eva Rock et de son invité, je vous l'ai promis, Amélie Nothomb. On va jouer à présent avec un quiz sur le Japon.
Il y a une chose que je déteste, ce sont ces émissions prévisibles qui vous proposent des quiz idiots sur une thématique trop souvent associée à l'invité. Vous comprendrez donc que je vous propose à présent, cher Amélie Nothomb, un quiz sur le Japon. Ah, fascinant Japon! Vous serez opposé à Eva Rock, la geisha du vieux Nice. Le principe est simple, c'est un vrai faux, vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. On commence avec vous Amélie. La célèbre voiture japonaise Toyota appartient à la famille Toyoda, avec un D. Vrai ou faux?
Vrai.
C'est la bonne réponse. Sakichi Toyoda, né en 1867, est le fondateur de Toyota. Akio Toyoda, actuel président de la marque, est son petit-fils. Mais savez-vous pourquoi ils sont passés de Toyoda à Toyota?
Ah ça non.
Parce que, eh bien figurez-vous que c'était plus esthétique quand on écrivait la marque. Alors je ne sais pas si vous écrivez le japonais.
Je vois
pourquoi.
Je comprends pourquoi.
Et nous aussi, puisqu'on
c'est vrai.
Eva Rock, si vous allez au Japon et que vous trinquez, évitez de dire chin-chin, parce que ça veut dire sale type. Vrai ou faux?
J'ai peur qu'en fait la réponse...
Bon, n'essayez pas d'analyser, donnez-nous une réponse.
Je dirais que c'est vrai.
Eh bien, c'est faux, Eva.
Ah mince,
eh bien, c'est
ça
faux. Par contre, évitez quand même de dire chin-chin.
Oui, ça veut dire, ça désigne le sexe du petit garçon.
Voilà, donc si vous voulez pas finir en tôle, évitez de dire chin-chin. Attention, cette fois une question, trois propositions, tout le monde joue. Au Japon, les compagnies de train ont une étrange coutume. 1. Elles offrent des tickets gratuits aux usagers qui prennent en photo les fraudeurs. 2. Elles proposent aux voyageurs de défier certains contrôleurs au judo. Ou 3. Elles font un procès aux familles des personnes qui se suicident en se jetant sous les trains. Que répondez-vous?
3.
La 3. Elles font un procès aux familles des personnes qui se suicident sous les trains.
Et moi, j'aurais dit la 1.
Elles ont des tickets gratuits aux usagers qui prennent en photo les fraudeurs. Non, ça c'est en Suisse, je vais vous dire. Enfin, dans les bus suisses, en tout cas. Oui, mais c'est vrai. C'est si, dans les débuts de la TPG, les transports publics genevois, on vous incite à dénoncer votre voisin. Et non, au Japon, c'est beaucoup moins horrible que ça. On fait des procès aux personnes qui se suicident en se jetant sous les trains. Bonne réponse d'Amélie Nothomb. Incollable sur le Japon. Eva Rock, au Japon, depuis juin dernier, une loi interdit de pratiquer le karaoké en état d'ivresse. Vrai ou faux?
Je dirais faux, c'est impossible de faire un karaoké sans être ivre.
En ce qui vous concerne, mais n'universalisez pas votre...
Tout le monde. Non, je dirais que c'est faux.
Bon, vous avez raison, c'est faux. Par contre, un décret a été voté pour interdire la conduite d'un drone en état d'ivresse.
Ah bah
visiblement,
oui, évidemment.
Ça commence à poser des problèmes.
Bah oui.
Amélie Nothomb, c'est la dernière question qui va vous départager. Si on vous apporte un plat, alors, ikizukuri, pas si je le prononce bien, ça signifie que ce que vous allez manger est encore vivant. Vrai ou faux?
C'est vrai.
Oh, incollable, Amélie Nothomb.
Oui.
Alors ça, c'est incroyable, c'est une méthode de cuisine très ancienne. On ne voit pas ça par chez nous. C'est généralement du poulpe, de la carpe ou du homard. On la coupe et on la cuit juste ce qu'il faut pour le maintenir en vie. Ce genre de plat est très controversé en Occident. Étonnamment, il est même interdit en Allemagne. Jean-Philippe.
En même temps, on mange des huîtres.
Hein. Eh oui,
c'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
C'est vrai, on mange des huîtres, mais elles sont vivantes, les huîtres.
Ah oui, c'est vrai.
Eh oui, oui.
C'est vrai.
Et vous en avez déjà mangé, Amélie
Nothomb? Bien sûr, très souvent.
Et c'est très bon.
Honnêtement, je ne trouve pas que ce soit meilleur.
D'accord.
Et personnellement, je n'aime pas beaucoup cette méthode.
C'est une curiosité.
Oui.
Le résultat de ce quiz, les amis en régie, je crois que c'est 3 à 1 pour Amélie Nothomb qui triomphe magistralement. Bravo, Amélie. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous faire harakiri avec votre stylo bic Europe 1. Respectons les traditions.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Ah oui, 2 heures pour s'étendre tout en s'informant, se cultivant. C'est l'équipe est sauvage tous les jours, tous les après-midi de 16h à 18h sur Europe 1. On va retrouver Mathieu Noël entouré d'Eva Rock, bien évidemment, de son invité, alors amoureuse du pays du soleil levant, Amélie Nothomb, et puis des journalistes venus défendre leurs meilleurs sujets, Pauline Jacquot, Anne Le Gall, Jean-Philippe Ballas et Jérôme Lacroix.
Il a fouiné sur Wikipédia, il a vu évidemment le lien privilégié d'Amélie Nothomb au Japon où elle a longtemps vécu, il s'est mis à répéter devant sa glace. Sa femme lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fous, Gégé, je dois me brosser les dents ». Il lui a dit « Mais je m'entraîne pour l'émission avec Amélie Nothomb ». Et puis comme il est spécialiste sport, il s'est dit « Ah, je vais faire le judo, ça va lui plaire, pas de bol Gégé, le sport préféré d'Amélie, c'est le sumo ». Donc, débrouille-toi avec ça et vas-y pour ton sujet sur les championnats du monde de judo.
Eh ben, je vais tout assumer. Voilà, vous l'avez dit, ce sont les championnats du monde de judo à Tokyo, au Japon, en ce moment. Alors, j'ai eu envie de partager avec vous, Amélie Nothomb, avec aussi les auditeurs, l'histoire, les histoires, en fait, peu banales du judo au Japon et surtout de la naissance du judo, parce que oui, vous l'avez dit, pas sur Wikipédia, non, mais c'est en me renseignant que j'ai trouvé tout un tas de petites anecdotes que moi-même, qui est plutôt la fibre sport, ben, je ne connaissais pas du tout. Commençons par le plus basique, rien que la signification du mot judo. Alors, je vais me lancer.
Je l'ai eu su, mais j'ai oublié.
La prononciation déjà, je vais le tenter. Judo en japonais. Alors, je tente de répéter minablement ce que j'ai entendu sur Internet.
Judo.
Ouais. C'est Google Traduction, mais bon, voilà, pour avoir un peu l'idée, la tonalité. La voix de la souplesse, ça veut dire. Et l'histoire de la naissance de la discipline, moi, j'ai trouvé ça vraiment très poétique. Je vous présente Jigoro Kano. Il est jeune, hein, une vingtaine d'années, étudiant. La légende décrit notre jeune étudiant observant, écoutez bien, une couche de neige se déposer sur la branche d'un cerisier, une branche solide. Et sous le poids de la neige, eh bien, la branche, elle a cassé. Au contraire, du roseau qu'il a aussi observé, un roseau souple, harassé de la même neige, qui lui a plié, mais n'a pas cassé, il a plié, et la neige a glissé, elle est tombée au sol, et le roseau s'est ensuite fièrement relevé. Conclusion, le faible, pourvu qu'il soit souple, peut vaincre le fort.
Le judo est donc né en 1882.
Voilà, là on est en 1882. Jigoro Kano, il établit les principes de la discipline. Alors, parmi lesquels, les principes, évidemment, c'est très lié à l'esprit. Un parfait contrôle de sa propre énergie et utiliser la force et les intentions de l'adversaire contre lui-même. Jigoro Kano, il parcourt le monde pour faire connaître tous ses principes. Alors, je ne vous ai pas fait le détail de la liste des techniques. Hein. Regardez, bon, voilà, j'en ai quelques-unes. Voilà,
je ne sais
pas combien de pages. Donc,
moi, je les connais tous par cœur.
Oui, bien sûr. Alors, histoire. Un jour, sur un bateau qui le ramène d'Europe, un lutteur russe, un colosse, hein, le met au défi de le mettre au tapis selon les principes qu'il vient d'inventer. Ok, il dit le japonais, et sous les yeux ébahis des autres passagers, eh ben, il parvient à mettre sèchement, en une seule prise, le russe au tapis. On parle d'un russe qui pesait 120 kilos. Jigoro Kano, lui, à ce moment-là, il en pèse 50.
C'est étonnant, je vois bien un biopic de ce Kano. Oui. Pas mal. Je vois bien cette scène comme ouverture du film.
Oui, c'est une super histoire.
La discipline plaît en Occident et les premiers judokas européens adoptent des rites dignes des sociétés secrètes.
Sociétés secrètes. Ils signaient avec leur sang une déclaration dans laquelle ils s'engageaient à ne pas révéler le contenu de l'enseignement. Tous devaient connaître par cœur les 365 points vitaux du corps, pour être évidemment des combattants plus efficaces. Et puis il y a aussi un principe alors là, totalement singulier, le kiai, le cri qui tue.
Ah oui,
ah oui. Alors là, plusieurs exemples. Le cri qui terrasse les adversaires. Alors en vrai, c'est plutôt pour décontenancer le vis-à-vis. Alors c'est pas un hurlement, attention, c'est un cri presque sacré qui se veut chargé d'énergie. Ventre bas, liaison puissante avec l'esprit, on l'appelle le cri qui tue. Voilà, il y a une sorte de formidable exaltation, paraît-il, quand on le maîtrise. C'est en tout cas ce que racontent les pratiquants.
Encore plus étonnant, Jérôme, au départ, le judo n'a aucune dimension combative.
Non, la discipline a une évocation d'éducation. C'est vraiment ça, de symbiose avec son esprit. L'orientation sportive, elle vient après la Seconde Guerre mondiale, aux alentours des années 50. Alors vous imaginez, les Japonais, qui sont quand même les inventeurs, dominent les premières compétitions. Premier mondial en 56, ils raflent beaucoup de médailles. La consécration prestige suprême pour la discipline et pour le pays, c'est l'arrivée du judo au programme olympique, au JO, 1965. Et où ça précisément? Eh bien, à Tokyo.
Et au Japon, le prestige d'une médaille olympique, j'imagine, en judo est immense.
Oui, les titrés accèdent vite au statut d'icône, mais il faut quand même le dire, le prestige tend à diminuer. La discipline au Japon a été le cœur de quelques scandales ces dernières années, dont celui-ci en 2013. Des jeunes judokas qui auraient été malmenés dans certaines écoles. Des coups de pied, des gifles, des fessées assénées avec un sabre en bambou. Et puis aujourd'hui, il y a aussi autre chose qui éteint un peu le prestige du judo côté japonais.
C'était Dirinère.
Évidemment.
Mais Baroque.
Oui, je me demandais, Amélie Nothomb, vous qui avez vécu longtemps au Japon, est-ce que vous sentez cette influence des arts martiaux quand on vit là-bas? Est-ce que ça fait vraiment partie de la culture au quotidien?
Oui, bon, cela dit, j'ai vécu beaucoup d'années au Japon et personnellement, je n'ai jamais pratiqué les arts martiaux. Mais c'est en même temps une logique complètement japonaise. La souplesse, ça fait partie de l'idéologie japonaise, même quand on ne pratique pas de sport.
Oui, et renverser l'autre, même quand il est plus fort que nous, par l'astuce ou la souplesse, c'est très japonais. Merci Jérôme, j'ai bien aimé cette enquête sur le judo, mais voilà, le règlement est le règlement, voici la question vache de l'autre chroniqueuse, en l'occurrence Pauline Jacquot. J'ai une question pour Jérôme.
Oui, parce que Jérôme, vous avez misé sur la poésie. Très bien. Judo, ça reste un sport. Donc moi, j'ai une question à 1000 points, un peu sportive. On va y aller quand même. Pour voir si vous avez quand même bien révisé. Qu'est-ce que le Yusei Gashi? Parce que moi, contrairement à vous, je prononce extrêmement bien le japonais.
C'est pour ça que j'ai préféré mettre une illustration.
Une pastille, évidemment.
Eh bien non, je ne sais pas. Je vous avais vu, j'avais dit, j'ai déminé un peu.
Vous avez pourtant des antisèches, bah, oui, mais bah, vous n'avez pas le temps de les utiliser. C'est perdu.
Je connais le hippon, qui est un peu la prise reine.
Voilà, attendez, qui double question match. Pauline Jacquot, vous connaissez la réponse?
Bien sûr. Bah, c'est une victoire par supériorité.
Oh, bah, Pauline Jacquot marque des points.
C'est beaucoup plus clair maintenant qu'on a sa réponse. très clair.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Et pour Mathieu Noël, rien n'est flou, tout est bien clair. On s'amuse tout en s'informant. Et on va le retrouver, toujours en compagnie de sa complice Eva Rock, de son invité, la journaliste et présentatrice de Cache Investigation d'Envoyé Spécial, Élise Lucet, et des journalistes de la rédaction d'Europe 1, Nicolas Carreau, Alain Siroux, Mathieu Charrier ou encore Axel de Tarlé.
L'équipe est sauvage, c'est une émission qui vise à vous divertir certes, mais aussi et surtout à vous informer au plus proche du terrain et surtout loin des clichés. C'est pourquoi nous prenons tout de suite la direction de Marseille. Marseille où se déroule depuis lundi un festival, je dois dire un peu particulier, le deuxième festival du couscous, qui est un des plats préférés des Français, on le sait. Nathalie Chevance, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante dans le sud et gourmande comme je vous connais, vous avez voulu y goûter.
Bah oui, forcément, imaginez la couscous mania qui s'empare de la cité phocéenne. 32 recettes proposées à travers la ville pendant une semaine dans des lieux plus ou moins insolites. Alors, il n'y a rien à gagner. Ce n'est pas une compétition entre restaurateurs. C'est tout simplement le plaisir de partager, de déguster. Mais avant de parler saveurs, j'aimerais vous poser une petite question, Mathieu.
Allez-y, Nathalie, je vous écoute.
Est-ce que vous savez d'où vient le mot couscous?
Je craindrais de dire une bêtise. Je n'en ai aucune idée.
Alors en fait, c'est le bruit que le pilon fait en broyant le blé qui fait la graine. Pas mal, je me suis entraînée.
Nathalie Chevance, merveilleux, effectivement.
Et si je vous dis couscous, c'est souvent des souvenirs de cuisine. Alors on va dire entre copains, en famille. Et pour commencer, je vous emmène dans un restaurant de filles. Yima, tenue par une chef, elle a 26 ans. C'est Ella Aflalo, elle est d'origine marocaine et israélienne, installée dans le quartier de Noailles, entre Canebière et Vieux-Port, sans doute le plus populaire de Marseille. Pour ce festival, elle propose un couscous à base de pigeons confits. Avec
là encore.
Et vous allez l'entendre avec encore beaucoup de souvenirs d'enfance.
Moi, mes grands-mères, mes mères le font aussi d'une manière différente. Là, je vais essayer, moi, à travers donc, cette édition, de le retravailler un petit peu à ma façon. On va mettre en avant dans ce couscous le pigeon. La pastilla au pigeon au Maroc, c'est très, très connu. Donc, on va le travailler avec des figues et on va essayer de travailler aussi un petit peu en monochrome, de rester que sur du violet. Donc, on va avoir de l'aubergine, des carottes violettes. La semoule, ce sera de l'orge. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a autant de couscous qu'il y a de maman tunisienne, quoi. Et ça, c'est assez génial.
Et en fait, Nathalie, l'idée, c'est que chaque cuisinier raconte une histoire à travers le couscous qu'il a choisi.
C'est ça. Et demain, samedi, il faudra vraiment passer sa journée dans ce quartier de Noailles, se perdre dans les ruelles où c'est tout un quartier qui propose son savoir-faire, ne pas hésiter à pousser les portes, par exemple dans cette magnifique épicerie, la bien nommée L'Idéal, avec sa petite cuisine en fond de salle. Là, c'est Aurélien qui est au fourneau. Un Parisien, imaginez, Marseillais d'adoption, bah, il est tombé dans le couscous.
Je suis arrivé à Marseille, j'avais 9 ans, et on a été accueillis par des familles qui nous ramenaient des couscous. Et en fait, c'est vraiment des souvenirs de partage incroyables. Quoi.
Là, on est devant votre four, ça y est, ça commence à mijoter. Qu'est-ce qui mijote dans le four,
en fait,
là?
On fait un bouillon d'agneau parfumé au ras à la nout. À côté, on a fait des tomates confites, cuit 6 ou 7 heures. On va faire un lait caillé, on va servir ça avec des raisins frais, des gros raisins frais très croquants qui amènent un peu de fraîcheur. C'est un peu un plat d'adoption quoi, marseillaise un peu quoi.
Nathalie, Eva Rock en studio avec moi est dans un état d'excitation que je qualifierais de proche de l'orgasme.
C'est vrai,
à l'écoute de votre reportage.
Ça a l'air très très bon.
Le couscous, plat de la convivialité par excellence, du partage. Ok Nathalie, mais enfin quand on est à Marseille, on pense d'abord à la bouillabaisse.
Bah oui, et bien justement, il y a un chef à Marseille qui a osé ce que personne avant lui n'avait jamais imaginé, un couscous à la bouillabaisse. La recette sera proposée...
Une couillabaisse, ouais. Une couss-bouillabaisse.
Il ne l'a pas appelé comme ça, il a dit le couscous à la bouillabaisse. Bon, en tout cas, la recette sera proposée pour la toute première fois demain midi par Olivier, qui lui est un authentique Marseillais, chef au bistrot Saint-Louis. Je lui ai d'abord demandé s'il était fada.
Non, pourquoi être fada?
essayer de mélanger deux cultures et deux horizons pour à la fin faire une belle assiette.
Alors là, ça mijote, ça sent bon.
En fait, c'est un couscous cuisiné comme une bouillabaisse. Il y aura de la semoule, il y aura du poisson, il y aura tous les légumes du couscous, mais le tout cuit dans une soupe de poisson, en fait. C'est une grande première pour moi.
Vous avez un peu le trac ?
Non, je suis sûr de ce que je fais.
Et 10 euros le couscous bouillabaisse, ça vous tente ?
Ah bah oui, c'est sûr que 10 euros, ça fait rêver, encore plus.
Vous pourrez même tester la pizza couscous, plat plusieurs fois millénaire, transculturel, que certains aimeraient bien voir inscrit au patrimoine de l'UNESCO.
Va pour la pizza couscous. Moi, de toute façon, dès qu'il y a du couscous, je suis preneur.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Il était à l'affiche du film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. L'acteur et humoriste Harry Habitant a étrenné le nouveau rendez-vous de Mathieu Noël. L'équipe est sauvage, que vous retrouvez tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et qui vise à vous divertir tout en améliorant votre culture générale. Alors, on va le retrouver toujours aux côtés de sa complice Eva Rock et des journalistes en compétition. Puisque ça se bagarre dur pour présenter le meilleur sujet. Il y avait donc Ève Roger, Anis Mlida, Axel de Tarlé et Jérôme Lacroix.
L'heure est grave. Surtout pour notre invité Harry Habitant, car je disais tout à l'heure que depuis Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, votre taux de notoriété est de 98%, un chiffre que j'ai évidemment inventé, mais j'y crois. Cette affirmation sera-t-elle corroborée ou au contraire démentie par les vrais gens rencontrés dans les vraies rues ? Nous sommes allés à votre rencontre pour ce qu'on appelle dans le jargon un micro-trottoir. Voici Harry, votre micro-trottrache.
C'est un humoriste qui est également acteur de cinéma dans la vérité. Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
Harry Habitant ou Harry Habitant ?
Acteur, chanteur et comédien aussi.
Harry Habitant, c'est un beau garçon.
Ouais, il a l'air sympa, il est rieur.
Bonne humeur.
Il nous fait rire.
Bah, c'est plutôt un beau garçon en plus.
Si vous interpellez souvent des femmes, elles doivent toutes vous dire ça, non ?
Il a la tchatch, il a la verve, il a le soleil dans la... Oui, il est gay.
Oui.
Gay, aïe. Et puis il parle souvent de sa maman. Mais oui, c'est un bon fudge.
Je l'ai vu au Marrakech du Rire. J'ai trouvé ça très bien.
Si, je le connais.
Lui, bah oui, je le connais.
Ça passe à la télé ?
Non, et là, c'est bon pour vous, juste à la radio, désolé. Alors, une chose est sûre, Harry, vous faites l'unanimité, surtout auprès des femmes, elles vous trouvent toutes drôles. Et puis vous avez ce deuxième effet qui se coule, très très agaçant, c'est ça, si vous ne coupez pas mes phrases, c'est mieux. C'est qu'elles, si elles ne vous trouvent pas drôles, ça peut arriver, elles vous trouvent quand même beau. Vous gagnez toujours, quoi qu'il arrive, sur tous les tableaux.
Vous dites, ah, j'ai au grattage, c'est ça que vous dites.
Je ne me serais pas permis car j'ai une certaine finesse, mais effectivement, aller dans votre bouche, ça sonne bien.
Non,
ça sonne pas mal.
Vous ressemblez souvent à Georges Clooney.
Mais c'est vrai, sur sa deuxième, j'invite les auditeurs à aller voir sur son Instagram. Je crois la deuxième ou la troisième photo. J'ai cru que c'était Georges Clooney en fait. J'ai cru qu'il avait mis une photo de Georges Clooney, c'est lui.
Georges Clooney de Casablanca.
Georges Clooney de Casablanca. Moi, quand j'étais gosse, Harry Habitant, je vous dis la vérité.
Moi, quand j'étais gosse.
Quand j'étais gosse. Je m'endormais chaque soir en m'imaginant jouer la Coupe d'Europe avec Jean-Pierre Papin. Bon, je suis là avec Eva Rock, game over. Vous, petit, vous rêviez de monter sur scène, de devenir une star de cinéma ou vous rêviez de toute autre chose ? Par exemple, d'être footballeur ou...
Je rêvais de ça, ouais. Ah, j'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours rêvé de monter sur scène. Mon objectif, en fait, il était simple au départ. Je ne savais même pas qu'on pouvait en faire son métier. Il n'y a pas de métier. Aujourd'hui, on parle de métier d'humoriste.
Il y a même des écoles de stand-up.
C'est un truc de fou, pas du tout. Moi, mon objectif, c'était de distraire et de faire rire les gens. Sinon, au départ, non, j'y pensais pas, jusqu'à présent d'ailleurs.
Vous étiez chauffeur de taxi à 19 ans, votre père l'était avant vous. Et il y a une anecdote un peu touchante, rétrospectivement, c'est que vous diffusiez, paraît-il, à vos clients dans le taxi, des cassettes. Vous aviez préalablement enregistré vos sketchs.
À l'époque, il y avait des magnétophones où on pouvait enregistrer dans des cassettes. Bon voilà, je parle aux plus anciens, où j'enregistrais mes sketchs, mais c'était très nul parce qu'on entendait mal, parce que ma mère criait derrière, on entendait en voix de fond toute la famille, et je l'ai passé dans mon autoradio en faisant croire aux passagers du taxi que c'était Rire et Chanson.
Et ça marchait ?
Et ça marchait pas du tout, on entendait très très mal.
Mais il n'y a pas un client un jour qui s'est mis à rire derrière et vous avez dit c'est bon ça, hein, c'est bon, hein,
c'est, bon rire. C'est moi. Non, mais foutez de ma gueule, personne n'a cru dans cette histoire. Donc oui, c'est vrai, effectivement, j'enregistrais mes sketchs comme ça, ouais.
Vous avez publié dernièrement, toujours sur Instagram, une vidéo assez mignonne où on découvre le talent protéiforme d'Harry Habitant. On vous voit enfant. Oui, ici, c'est France Culture quasiment. On vous voit enfant, vous dansez sur Elvis Presley, Blue Sweat Shoes. Vous êtes très
Presley,
mignon.
Presley, il n'y a pas de Z.
Oui, Elvis Presley, c'est vrai.
Sinon, ça fait Breslev.
C'est vrai. Elvis Presley. Et même si le swing est là, il est déjà là. Hein. Vous n'êtes pas forcément à votre avantage quand même sur le potentiel comique. Oui, lui, il est là.
Il est là.
Mais je suis désolé de vous dire, la vidéo est drôle, mais il y a encore plus drôle sur Blue Sweat Shoes. On l'a eu à Europe 1 ici, on a fait beaucoup mieux, avec Laurent Cabrol. Le célèbre monsieur météo d'Europe 1 qui, entre deux bulletins météo, pousse parfois la chansonnette.
À qui se pense pour moi, lui pour chaud.
C'est pas vrai. On a encore cette pompe dans tous.
Voilà, donc je vous invite, chers auditeurs, à comparer avec la version d'Harry sur son Insta, de là où en tout cas le King décrète match nul.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Ces dernières minutes, on va les passer en compagnie de Mathieu Noël, bien sûr, et Aroc, l'invité, Bruno Salomon, qui était venu nous parler notamment de son livre Les Misophones, et puis en compagnie d'une championne de l'info.
Voici la très compétitive Ève Roger, chef du service société d'Europe 1. Quelqu'un d'extrêmement déterminé qui vraiment se donne les moyens de réussir tout ce qu'elle entreprend.
Je vais devenir le meilleur coup de Paris.
Quel que soit le domaine, visiblement. Ève, vous êtes actuellement en tête du championnat des journalistes d'Europe 1, il faut le savoir. Par quels moyens comptez-vous le rester ?
Eh bien, en continuant à faire de l'œil à l'invité.
Ah, c'est juste
le ton
comme
est donné.
Ça. Où est-ce qu'il y a quand même un sujet ?
Alors, nous allons parler des défauts physiques imaginaire.
Et je crois que c'est un nom,
nous-mêmes.
La dysmorphophobie, c'est ça ?
Et oui, c'est donc un mot barbare pour dire une chose très simple, c'est quand on a l'impression d'avoir un défaut physique, mais qu'il est soit minime, soit complètement imaginaire. Alors ça touche plutôt le visage, parce que c'est la chose qu'on voit le plus. Le nez qui serait trop gros, les oreilles trop grandes, peut-être les cheveux trop fins ou trop épais. Le corps, évidemment, aussi trop gros, trop mince, pas assez musclé. Et ce qui différencie cette dysmorphophobie corporelle du complexe normal, on a tous un petit complexe physique, c'est qu'il est obsédant. Et les spécialistes disent qu'on y pense entre 3 et 8 heures par jour, qu'on peut passer 40 fois devant la glace pour le regarder, pour vérifier. Et la conséquence de ça, c'est qu'on ne pense qu'à une chose, c'est à le camoufler et à le gommer. Alors, je vais vous faire entendre Romuald. Romuald, il y a 33 ans. Lui, son problème, c'est son ventre. J'ai vu des photos, je vous promets, on ne voit rien.
Et enfin,
il pense qu'il a un gros ventre.
Il pense qu'il a un gros ventre. Et il
mais qu'il n'a pas de ventre.
C'était la question.
Ça commence là.
On peut imaginer qu'il aimerait bien ne pas en avoir du tout. Et vous allez voir, il passe sa journée à essayer de camoufler. Écoutez.
Je me débrouille toujours pour avoir un bras devant le ventre, pour être légèrement tourné de côté, pour avoir l'apparence du ventre le plus fin possible. Et je bloque ma respiration quand je me retrouve observé par quelqu'un et j'essaye de rentrer le ventre au maximum. La plupart du temps, dans la journée, j'y pense au moins une dizaine de fois. Dans mon cercle aussi bien professionnel que familial, on me dit que je suis très bien comme je suis et que j'ai vraiment aucun complexe à avoir.
Vous entendez la souffrance, parce que c'est ça aussi la caractéristique, c'est que ça fait terriblement souffrir.
Moi, il y a un moment où je rentre mon ventre, c'est sur la plage quand même. Bruno Salomon, l'été sur la plage, on rentre un peu le ventre quand même quand on se déplace.
Moi, je suis en apnée, hein, tout le temps. Je suis en apnée.
Est-ce que ça touche plutôt les femmes que les hommes ?
Et ben en fait, c'est à égalité. On pourrait penser que c'est plutôt les femmes, mais c'est pas les mêmes complexes. Alors, c'est pas les mêmes défauts physiques imaginaires. Les femmes, c'est plutôt l'idéal de la masseur, donc c'est plutôt autour du corps. Et les hommes, alors j'ai découvert ça, c'est l'idéal de la musculature. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent jamais suffisamment musclés. Ceux qui sont atteints de ce mal-là.
On n'est pas d'accord avec Bruno, visiblement.
Et puis, évidemment, la taille du pénis, ce qui nous étonne pas.
Alors... Tout ça, on est d'accord avec Bruno.
Moi, je peux me gratter les cheveux sans les mains. Non mais.
Non,
s'il vous plaît, l'image mentale, c'est ça, voilà ça. Alors, je vais vous faire écouter une femme parce qu'elle, son problème, c'est la mâchoire. Je vous rappelle que c'est un défaut physique imaginaire. Donc, elle a le sentiment que sa mâchoire avance vers l'avant. Et donc, encore une fois, personne ne le voit. Et elle, donc, comment on cache une mâchoire qui avance ? Vous allez l'entendre.
Je vais souvent fermer la bouche, donc je vais la cacher comme ça. Et c'est devenu un réflexe.
Quand vous souriez, quand vous riez, vous avez aussi une petite mimique pour cacher cette mâchoire ?
Je tire très souvent la langue, bon, du coup, et a priori, voilà, ça me donne un charme que très souvent mon entourage me dit, quand je leur parle de ce complexe-là, ils me disent « Ah non, mais attends, le fait que tu tires la langue tout le temps, c'est trop mignon. »
Donc, alors, ça se soigne, je vous le dis, ça se soigne. Il y a deux choses. Eux se soignent mal parce qu'ils se font opérer. Elle va se faire opérer de la mâchoire. Il y a un chirurgien esthétique, ils se font 2, 3, 4 opérations, mais ils ne sont jamais satisfaits puisque ça se passe dans la tête. Donc, la seule chose pour soigner ça, c'est une thérapie comportementale et pour essayer de revenir aux origines de ce mal.
Merci beaucoup, Ève Roger. Bruno Salomon, dans le livre que vous nous présentez aujourd'hui, vous évoquez la misophonie. On en parle depuis 16 heures, ce trouble qui consiste à être hypersensible aux petits sons de la vie quotidienne. Est-ce qu'à l'issue de cette chronique, vous vous sentez dysmorphophobe ?
Non, mais effectivement, il peut y avoir des sons provoqués par la mâchoire, par exemple, quand vous disiez la mâchoire.
Ça y est, non, mais, il va
des
imaginer
gens
des trucs.
Tics, des tics comme ça, mais, et qui peuvent provoquer des sons, ou des gens qui ont des dentiers. Le mec est complexé par son dentier, ça peut arriver. Non,
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.